C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur multiple, croyant ou non, de droite ou de gauche, et principalement depuis la Révolution française. Œuvre, roman, 1789-2020. Personnage, le prêtre. Certaines catégories de personnages de fiction existent en fonction de leur représentativité sociale. Représentativité est vague, parlons plutôt d'un mélange de popularité et d'influence. C'est ainsi qu'il y a eu des personnages de couturières, tant qu'il y a eu des couturières dans la société, et qu'elles étaient bien aimées. Et, comme toute généralisation ne révèle que des tendances, pas des lois, il existe aussi une catégorie de personnages dont l'influence dans la fiction a été multipliée après que leur nombre et leur influence dans la société ont été réduits. Je veux parler des prêtres catholiques. Il y avait, jusque dans les années 80, 38 000 paroisses en France. Elles sont maintenant moins de 15 000 pour à peu près autant de prêtres diocésains et religieux, qui était le double en 1995. Et évidemment, le nombre le plus frappant, c'est qu'il ne reste que 800 séminaristes. Cela ne veut pas dire que les prêtres vont disparaître de la fiction. Il y a des archéologues dans les romans et ils ne sont pas infiniment plus nombreux que les prêtres. Et surtout, la littérature n'est pas un régime représentatif, elle parle de qui lui chante, quand ça lui chante, pourvu que ça chante. Il est frappant de constater que, sous l'Ancien Régime, les prêtres, pourtant si nombreux, étaient à peu près absents de la fiction. Dans le roman, pas de prêtres, si l'on veut bien accepter Rabelais, dont les romans sont d'ailleurs plutôt des féeries, et où il se moque tant soit peu des prêtres, proposant même qu'ils se marient. Rabelais était lui-même prêtre, un prêtre séculier et singulier. Il l'est automatiquement devenu en tant que moine médecin dans un monastère qui avait été transformé en collégial. Dans les fables ou les contes, pas de prêtres non plus, sinon pour se moquer de leur saleté ou de leur cupidité supposée, comme dans la fable de La Fontaine, le curé et la mort. Même dans le théâtre, pas de prêtres. Le prêtre allait de soi, c'était comme une espèce de fourniture morale dont il n'était pas besoin de parler. Il est entré dans la littérature après la Révolution française, la plupart du temps dans des romans d'écrivains catholiques et parfois contre-révolutionnaires, comme s'il tentait de procéder à un bouche-à-bouche. Il semble être devenu plus militant sous la Troisième République, tandis que dans les années 1960 sont arrivés les écrivains étrangers convertis comme Graham Greene et Anthony Burgess. Puis, dans les années 1970, beaucoup de romans de catégorie best-seller, un peu comme si le clergé n'était plus qu'un motif décoratif. Qui est le prêtre dans la fiction française? Pour en parler, je reçois Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, écrivain, dont le dernier roman « La grande épreuve » vient de paraître aux éditions Stock. Il commence sur la place de l'église d'un village de France. Le premier personnage à y apparaître est un prêtre et il finit dans une cathédrale. Je vous laisse découvrir comment. Étienne de Montetti, je voudrais pour commencer que vous me disiez ce qu'est un prêtre dans ses fonctions.
Un prêtre, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il est pour les catholiques celui qui, par les sacrements, administre la présence de Dieu parmi les hommes.
Oui, mais ça c'est une définition un peu vague. Il n'y a pas dans le code de l'Église, il n'y a pas une définition précise des fonctions du prêtre. Il doit dire la messe, il doit...
Non, je pense que c'est ça. Et après, survient du fait de sa charge de curé toute une vie paroissiale où il devient un acteur de la vie sociale. Et on y reviendra parce que c'est souvent à ce titre-là qu'il apparaît dans la littérature. Mais le premier point, un prêtre qui soit séculier, régulier, ermite, curé de paroisse ou moine... La raison d'être, c'est du fait de son sacerdoce, d'avoir la grâce de pouvoir administrer sacrement, c'est-à-dire de pouvoir apporter Dieu aux hommes. C'est ça que le catéchisme catholique le proclame.
Lesquels sacrements étant ?
Lesquels sacrements ? Il y a le sacrement de l'Eucharistie, évidemment, le plus important, le sacrement de la réconciliation, la confession, sacrement des malades, qu'on appelle aussi l'extrême onction, le sacrement du mariage, le sacrement
du baptême.
Du baptême, évidemment. Il y en a 7, j'en ai peut-être oublié quelques-uns.
Vous ne saurez
pas. Le sacrement de l'ordre, évidemment, qui permet aux prêtres aux évêques d'ordonner d'autres prêtres, bien sûr.
Alors, comme je le disais, ce prêtre apparaît en quantité après la Révolution française, qui avait vu, comme on sait, un grand mouvement de déchristianisation, et c'est d'abord grâce à des écrivains catholiques comme Chateaubriand. Il y a dans Atala et René des personnages de prêtres assez apologétiques, ce qui d'ailleurs n'est pas très surprenant de la part de l'auteur du génie du christianisme.
Oui, en effet. En effet, c'est le moment où le prêtre apparaît évidemment comme un personnage de la réaction, à tous les sens du mot, hein, à effectivement ce qui s'est passé pendant la Révolution, et qui va reprendre de l'ampleur. Ça va correspondre d'ailleurs à la renaissance du catholicisme en France. Le 19e siècle en France pour le catholicisme est quelque chose d'inouï. Je crois qu'une religieuse sur deux dans le monde était française.
Ah oui.
Et ça se voit dans les villages de France. Souvent, la très vieille église qui date du 14e siècle est petite. Et l'autre église beaucoup plus récente, celle du 19e, qui a beaucoup moins d'intérêt architectural pour les amateurs, elle témoigne de l'extraordinaire effervescence pastorale du christianisme au XIXe siècle.
Alors, le premier grand écrivain à s'emparer vraiment des personnages de prêtres et qui en a créé un nombre conséquent, c'est évidemment Balzac. Ce qui est intéressant, c'est que, au contraire de Chateaubriand, ils ne lui servent pas de porte-parole de sa propre foi. Ce sont des personnages, il les met dans la vie. Et je pense en particulier à l'abbé Birotteau, qui est le frère de César Birotteau et qui apparaît principalement dans Le curé de Tours.
Oui, effectivement, Balzac disait qu'il écrivait à la lumière de deux torches, la monarchie et l'Église catholique. Et effectivement, il ne déroge pas à son principe dans la communion humaine de faire des personnages qui sont des rouages de cette société qu'il observe, où l'ambition joue un grand rôle. Il a compris, comme d'autres avec lui, hein, plus tard Zola, voilà, que la société était devenue un sujet intéressant en tant que romancier. Et le prêtre y joue un rôle avec François Birotteau, je crois qu'il s'appelle, l'abbé Birotteau. C'est effectivement la face B de César Birotteau. Il y a les deux frères qui sont les mêmes deux facettes d'un même personnage, sympathique, franc, personnage très positif, mais évidemment naïf. Et ils vont être joués par les intrigues des autres. Et l'Église catholique, évidemment, ne fait pas exception à d'autres univers sociaux. Et l'abbé Birotteau va être,
abusé.
Enfin. Abusé, voilà, par sa logeuse. Et puis également l'objet de jalousie, d'ambition d'autres prêtres. Ça, c'est la face, je dirais, humaine de l'Église, dans laquelle il y aura toujours ce genre d'histoire.
Le personnage de prêtre le plus célèbre de la comédie humaine est un faux prêtre. C'est Vautrin.
Ah oui, oui, oui.
C'est Vautrin, et c'est très intéressant puisque, comme on sait, c'est un bagnard et qui a tué l'abbé Herrera et qui a usurpé sa personnalité et qui devient abbé lui-même.
Oui.
Et ça, c'est une idée à la fois de romancier populaire qu'avait été Balzac, qui revient dans le grand roman, si je puis dire, mais aussi une idée intéressante qui prouve le prestige de l'Église malgré tout, puisque le premier personnage dont un bagnard veut usurper la personnalité, c'est un prêtre.
Oui, parce qu'il est certainement attiré par cette image du bien que peut représenter le prêtre. C'est cette histoire de la substitution, on la trouve aussi dans Dumas, dans Les Trois Mousquetaires, avec Athos qui revêt les habits d'un prêtre à la faveur d'un orage, et ça donne une scène de vaudeville avec Madame de Chevreuse. Et Athos, nous raconte Dumas, va être hanté toute sa vie à l'idée d'avoir usurpé l'identité d'un prêtre, et auprès de cette femme, de s'être présenté comme un prêtre, avec tous les sacrements dont il était dépositaire, et il a l'impression de s'être damné ce jour-là.
Alors, d'autres écrivains à cette époque-là ont fait des personnages de prêtres très intéressants, je pense à un écrivain qui n'était pas du tout catholique, mais qui était même tout à fait athée, c'était Stendhal, et qui en plus était de gauche, et Stendhal, qui, Dieu sait, n'était pas très très pour les prêtres, a néanmoins écrit dans chacun de ses romans des personnages de prêtres, certes pas au premier plan, mais au deuxième ou au troisième plan, et dans La Chartreuse de Parme et dans Le Rouge et le Noir, très positif.
En effet, pour un romancier, un prêtre est un personnage passionnant. Ça, il y a quand même la part surnaturelle du prêtre doit pouvoir intéresser un romancier, et puis aussi l'attraction qu'il pouvait représenter dans la société du XIXe siècle. Un prêtre, quand il apparaissait, pour les hommes et pour les femmes, c'était pas anodin. Il y avait, outre tout un des tas de règles sociales, tout un protocole, c'était un personnage, mais dans une société qui était encore extrêmement chrétienne, qu'on soit pratiquant à l'époque ou pas, et même croyant, il y avait une sorte de dignité du prêtre qui en faisait un personnage à part dans le roman, ça c'est évident.
Alors passons à un autre écrivain du 19e qui était pour lui anticlérical, qui était Flaubert, mais moyennant quoi Flaubert a montré un personnage d'anticlérical stupide, comme nous le savons, dans Le pharmacien Homais, dans Madame Bovary. Et dans Madame Bovary, il y a aussi, de manière très intéressante, un prêtre.
Il y a un prêtre, en effet, et une scène qui est assez accablante, où on voit effectivement Flaubert qui ne passe rien à ce prêtre, parce que c'est un moment où Madame Bovary ne va pas bien, si tant est qu'elle aille jamais bien, et elle va chercher, justement, chez ce prêtre...
L'abbé Bournisien.
Une part de réconfort, une parole qui va la sortir de ce quotidien qui lui fait tant souffrir. Et Flaubert, avec cette méticulosité, hein, qui est évidemment la marque de ce roman, va s'attacher à décrire ce prêtre de la manière la plus triviale possible, d'un prêtre négligé, d'un prêtre dont le propos ne parle que de dîner, de lieu commun. Hein, c'est vraiment la part cléricale, sinon de Monsieur Homais, du moins de Monsieur Bovary. Hein. D'ailleurs, il lui dit, Monsieur Bovary soigne les corps, moi je soigne les âmes, mais il n'y a aucune élévation dans ce qu'il dit. Et c'est même assez terrible, parce qu'on sent Madame Bovary qui... est à deux doigts de lui poser des questions essentielles sur Dieu, au fond. Elle cherche à l'exprimer, et lui pense qu'elle ne va pas bien parce qu'elle a trop chaud ou trop dîné. Et il y a une scène où véritablement, cet homme n'est absolument pas à la hauteur de ce que cette femme attend de lui, c'est-à-dire une sorte de libération par la parole et par ce ministère qui est le sien. Et en réalité, il parle, oui, du dîner, de la chaleur, et puis du patronage et de la première communion, c'est-à-dire d'une sorte de prêtre réduit à son humanité, et puis à cette fonction sociale d'organiser l'éducation des enfants. Et on sent le désarroi de Madame Bovary, et évidemment l'idée que c'est une étape de plus dans sa déchéance.
Nous allons maintenant entendre un passage du film « Léon Morin, prêtre », film de Jean-Pierre Melville, tiré du roman de Béatrix Beck, du même titre. Le roman est de 1952, le film de 1961, et c'est Jean-Paul Belmondo qui interprète le rôle du prêtre.
Mes frères, est-ce le froid qui vous engourdit? J'espère que le beau soleil va vous animer un peu. Il y en a qui dévident leur chapelet pendant la Sainte Messe. C'est pourtant pas le moment. Il y en a qui vont faire leur petite dévotion auprès d'une statue, alors que le très saint sacrement est là, parmi vous, qui vous attend présent et vivant. Et puis tout le monde part avant le dernier évangile. Vous êtes donc si pressé de quitter votre Dieu, chrétien du dimanche? Mes frères, ne soyons pas comme ces disciples, qui se pressant autour de notre Seigneur, manquaient l'étouffer et empêcher les gens de le voir, et même de l'approcher. Si vous n'êtes que des chrétiens de nom, vous éloignez les hésitants, vous leur ôtez l'envie de venir. Alors que chacun de vous doit être apôtre dans son milieu. Je voulais vous dire aussi, chantons notre messe paroissiale avec un peu plus de virilité, s'entraîner sur les finales. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mais Étienne de Montetti, pour continuer à étudier ces personnages de prêtres dans ce personnage en personne, on dirait que ces personnages sont devenus, d'une certaine façon, des instruments de militantisme à partir du Second Empire et probablement à proportion de l'hypocrisie du Second Empire, parce que c'est un régime qui faisait bénir les moissons, mais on savait aussi que c'était un régime très hypocrite. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Barbé d'Aurevilly, lui-même d'ailleurs reconverti, si on peut dire, qui avait recouvré sa foi, et qui publie à ce moment-là, et au demeurant, il était impérialiste, il publie le terrible roman Un prêtre marié.
Oui. Terrible roman, effectivement, où il y a une sorte d'obsession, de fascination, justement pour la part sombre du prêtre, c'est-à-dire ce prêtre marié qui a une fille, qui vit avec elle, dans un mélange de mysticisme et d'obscurité. J'ai l'impression que Barbet est plus
intéressant. Et qui devient meurtrier.
Et qui devient meurtrier, absolument. Et on a l'impression qu'il est... pour le coup, tomber peut-être un peu de l'autre côté du mur, c'est-à-dire ne s'intéressant plus au prêtre comme un personnage de la société française, mais dans cette part surnaturelle du prêtre, il en fait un personnage mystérieux, même un peu inquiétant.
Un peu grand-guignolesque, non ?
Oui, parce qu'il y a une part un peu néo-gothique avec des...
Parce qu'il tue la nourrice, oui, elle se suicide.
Oui,
enfin...
oui. C'est pas forcément un très bon roman. Et un petit peu...
C'est à cette époque-là que Victor Hugo l'a traité de catholique hystérique.
Oui. Et peut-être que Barbet est catholique, mais il présente pas une image très catholique, à tous les sens du mot, de ce prêtre. Et puis davantage intéressé par une sorte d'exploration du mal... Mais en oubliant peut-être l'issue de secours, la rédemption, la noirceur est vraiment au rendez-vous avec une forme de complaisance quand même.
D'ailleurs, il y a une chose dont on peut pas parler de tout dans cette émission, on parle de fiction française, mais ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de roman contre les prêtres dans la littérature française, puisque le roman de Barbet n'est pas contre un prêtre, il est contre un meurtrier, un assassin et un fou. Alors que dans la littérature anglo-saxonne, il y a beaucoup de romans contre les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs usurpateurs, il y a beaucoup de pasteurs méchants. Et je ne sais pas si on peut faire une généralité pareille, mais en tout cas dans la littérature française, ça n'existe pas en tant que tel. On parlera de Zola tout à l'heure, mais Zola n'est pas, à proprement parler, contre ces personnages de prêtres.
Non, c'est vrai.
Est-ce que ce serait, d'après vous, possiblement une question d'éducation? C'est-à-dire la France est un pays tellement catholique et habitué même encore maintenant, à une espèce d'idée du prêtre comme personnage séparé, plus ou moins saint qu'il faut respecter, qu'on ne pense même pas qu'il peut être un personnage normal comme le font les anglo-saxons avec leur pasteur.
C'est possible, le pasteur est probablement désacralisé dans la société britannique. Il fait partie du paysage, mais il n'a pas cette part, effectivement, un peu à part, oui. Chez Chesterton, mais qui évidemment est catholique...
Converti, ce qui compte.
Converti, voilà. Souvent les pasteurs sont confondus et un peu ridiculisés. Et évidemment, c'est le père Brown qui tire son épingle du jeu par cette espèce de science infuse qui lui tombe du ciel. Mais là, on reconnaît les petits coups de patte de Chesterton à son ancienne communauté.
Qui avait trouvé une nouvelle foi, mais qui appliquait la mauvaise foi.
Oui, voilà.
Pour en revenir à la littérature française, on ne peut, comme je le disais, pas dire que Zola soit en soi contre les prêtres. Par exemple, dans La Conquête de Plassans, il y a l'abbé Faujas, mais ce qu'il critique dans l'abbé Faujas, c'est un politicien, au fond, qui prend le pouvoir sur une ville, pas un prêtre en tant que tel.
Oui, on retrouve effectivement ce qu'on avait vu chez Balzac, c'est-à-dire un homme aux prises avec la société de son temps et des intrigues, où il devient une sorte d'agent de l'Empire, c'est vrai. Alors, il est vrai que le prêtre devient un personnage de la société de l'époque, au même titre que le préfet ou le président du tribunal. Mais dans Germinal, par exemple, il y a un prêtre, l'abbé Rovier, qui, à un moment donné, lors d'une manifestation, se met du côté des mineurs et il est une espèce de prophète un peu échevelé, probablement un ancêtre des prêtres ouvriers ou des prêtres qui ont cette part un peu prophétique et qui vont se mettre résolument et même presque dangereusement du côté des pauvres et les ouvriers.
Pourquoi dangereusement?
Parce que souvent l'Église les tient à distance. S'en méfient, eux-mêmes peuvent être récupérés. Hein, le drame des prêtres ouvriers, ça a quand même été la récupération souvent par le marxisme. Et puis, ils se retrouvent en porte-à-faux, ce qui est toujours difficile. Et ce sont les ouvriers qui lui disent « Mais votre église, elle est du côté des bourgeois, du côté des patrons. » Et eux, mus par un sentiment généreux, essayent d'être des témoins du côté de la foule et de la révolte.
Zola s'intéresse à un type de personnage de prêtre qui a beaucoup préoccupé les gens pendant très longtemps, qui est le prêtre qui rompt son serment de chasteté, dans la faute de l'abbé Mouret en particulier. Et ça, Zola le fait, mais il n'a pas été le seul, Dieu sait. C'était une chose qui a fasciné les romanciers du 19e siècle, le prêtre qui couche avec une femme.
En effet, parce que la part humaine de l'homme... de prêtre homme, fait qu'on s'interroge toujours effectivement sur sa sexualité, que la chasteté, le célibat sont peuvent être des mystères pour la société. Et puis il y a chez Zola aussi dans ce livre La Faute de l'abbé Mouret, il y a une sorte de décalage entre la vie de l'abbé Mouret, la société des hommes, et puis une sorte de retour à la nature.
Et il vit au paradis.
Il vit dans une sorte de paradis, voilà, de retour à l'Éden. Il y a cette jolie fille là qui s'appelle Albine. une sorte de sauvageonne, effectivement, correspond voilà, au temps d'avant le péché originel, et évidemment, dans lequel l'acte de chair est quelque chose de merveilleux et ne est pas suspect de moindres éléments de péché.
Mais est-ce que ces romanciers qui se sont intéressés à ça, je ne pense pas du tout que ça soit par un esprit lubrique ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est parce que tout d'un coup, la femme intervenant, c'est l'arrivée du romanesque dans le personnage du prêtre. Et ça, c'est une question que je voulais vous poser, puisque vous-même, dans votre dernier roman, je l'ai dit, votre personnage est un prêtre. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand on compose un personnage de prêtre? C'est que c'est un peu comme d'ailleurs les personnages de psychanalystes. C'est quelqu'un qui sait tout. Il a un savoir qui est immuable et qui ne se modifie pas. Et donc, comme un roman, d'autre part, c'est, à mon sens, le récit d'une modification. Le prêtre est un personnage, par nature, un peu figé. Et donc, l'arrivée de la femme fait que tout d'un coup, de l'humain et du romanesque arrivent. Est-ce que vous diriez ça?
En effet, le très beau sujet de roman, de réflexion, c'est le prêtre, à la fois comme homme de Dieu, mais comme homme tout court, dans son rapport avec la femme. Beaucoup de prêtres le disent, là, on quitte la littérature pour parler de la sociologie. Voilà, les rapports avec les femmes sont compliqués. Il y a un mélange de fascination. Le prêtre est une figure d'autorité, c'est une figure de la parole. Ce qui peut fasciner les hommes, mais aussi les femmes, qui vont aller chercher chez eux des paroles. Et puis, le prêtre interdit par son ministère, par son sacerdoce, finalement, de relations intimes avec une femme, ce qui en fait un objet de mystère, éventuellement de tentation, de séduction. Là, ça nous ramène à Béatrix Beck et son Loin Morin. Est établi entre cette femme et ce prêtre un rapport de séduction et d'interrogation qui est absolument insondable.
Est-ce que le seul écrivain français qui aurait été ouvertement militant en créant un personnage de prêtre n'aurait pas été Bernanos, et je pense à Sous le soleil de Satan? Parce qu'il me semble que c'est un roman où là, vraiment, il y a une intention militante.
Mais je dirais pas militante. Bernanos s'accommode, alors là, pour le coup, du prêtre comme un mystère, un peu de... Pour la société, il poursuivra cette réflexion dans le journal d'un curé de campagne.
Oui, bien sûr, mais pardonnez-moi, mais quand même, dans l'abbé de Nissan, on sent que Bernanos n'est pas contre son personnage, hein, Dieu sait. Donc, c'est un personnage de prêtre qui dit « le monde ne croit plus au péché », etc., etc., qui est fortement mystique. Et ce qui a l'air moins romanesque, c'est qu'à un certain moment, l'abbé de Nissan rencontre un maquignon avec qui il a une conversation, il y a une épreuve, et ce maquignon, c'est Satan.
C'est le diable, oui.
Et quand on est un romancier, le diable, c'est un peu bizarre, non? C'est-à-dire que, je veux dire qu'à aucun moment, Bernanos ne laisse entendre que lui-même pourrait penser qu'il y a une exaltation de ce prêtre, ou qu'il y a, en tout cas, c'est ce qu'il pense et pas lui. Il n'y a pas tellement de distinction entre l'auteur et son personnage, il me semble. Là.
C'est vrai, mais c'est assez unique. Est-ce que c'est l'influence de Dostoïevski? Probablement. Mais Bernanos aimait le personnage du prêtre. Il était vraiment extrêmement à l'aise pour réfléchir à la singularité du prêtre. Je reviens au journal d'un curé de campagne. Personne n'a à ce point décrit la vie sacramentelle du prêtre que Bernanos dans ce livre.
Dans votre roman La Grande Épreuve, vous prenez le prêtre, un peu à la Balzac si je puis dire, comme un personnage antique placé dans une situation moderne. C'est un prêtre qui a l'air de douter de la modernisation de l'Église, ou en tout cas qui se pose des questions sur Vatican II, qui se donne le défi de répandre la religion dans, dit-il, une société d'abondance. Mais cependant, ça n'est pas exactement la société d'abondance qui va être son ennemi.
Pour partie quand même, parce que la société d'abondance produit ses enfants, et elles produiront les assassins de ce prêtre quand même.
Revenons, la société d'abondance engendrant des assassins, nuancez votre propos.
Non, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est que elle produit elle produit une jeunesse qui peut éventuellement manquer d'idéal et aller la chercher dans des causes désespérées.
Mais d'autre part, vous montrez des personnages de jeunes gens qui sont pas du tout qui ne manque pas du tout d'idéal dans ce roman.
Ah mais bien sûr, il ne s'agit pas d'incriminer la société. Mais je me suis dit, tiens, au fond, des jeunes sans idéal, des jeunes qui cherchent dans les lieux de structuration de la société française, hein, que peuvent être l'école, la faculté, mais aussi le catéchisme, l'univers du sport, tous ces lieux où normalement des jeunes gens trouvent des raisons de vivre. Certains passent au travers des mailles du filet et peuvent être récupérés par des idéologies mortifères. Je fais le procès de personne, mais j'observe face à cet homme qui est vraiment hanté par son ministère et les fruits que pourrait produire son ministère et qui voit une société lui échapper. Je le fais discuter avec un vieux maire communiste qui lui aussi s'interroge. L'autre grand lieu de fédération de la population française, le communisme, les deux font le même constat que l'individualisation de la société, la réalisation des désirs individuels font que ces deux institutions sont mises à mal. Et voilà que deux jeunes gens, effectivement, qui ont échappé à ce que la société française propose, eh bien, vont se retrouver face à face avec cet homme qui a cherché toute sa vie à donner un sens à la jeunesse.
Y a-t-il un moment, c'est une question technique que je vous pose, y a-t-il un moment où dans l'écriture de votre livre, votre foi, puisque je crois que vous êtes catholique, vous a guidé, vous a contrarié, enfin, en un mot, vous considérez-vous comme un écrivain catholique ou un écrivain qui se trouve être catholique ?
C'est une thèse passionnante, ça. Un catholique écrit un roman, donc à certains moments...
Mais est-ce qu'à certains moments, quand vous écriviez certaines phrases ou certaines choses, vous vous êtes senti guidé, gêné ? Vous vous êtes dit, il y a des choses à ne pas dire pour protéger ma religion ?
Non. Le souci de ne pas faire un roman apologétique, évidemment, on l'a toujours un peu en tête. Mais il faut aussi nourrir ces personnages, donc il faut les nourrir de...
Vous l'aviez un peu en tête, c'est-à-dire que vous vouliez créer un personnage de...
J'avais en tête un personnage de prêtre, oui.
Oui, mais vous, en disant apologétique, vous ne vouliez pas dire nécessairement de prêtre idéalisé.
Non, de prêtre justement dans son humanité, autrement dit avec sa part de déception vis-à-vis de son ministère, sa part de doute, sa part de tentation aussi, tout ça fait partie de l'humanité d'un prêtre, mais tout en gardant le cap vers ce qui a été sa raison d'être, qui était de servir le Christ. C'est un roman dans lequel c'est toujours d'une sorte d'équilibre quand même, entre la part de moi qui comprend assez bien de l'intérieur le prêtre, et puis un lecteur qui n'est pas forcément familier du personnage du prêtre, et à qui j'ai besoin de le présenter de manière quand même assez intelligible.
Étienne de Montetti, que vous ont appris les personnages de prêtres dans la littérature française ?
Beaucoup de choses. Ils m'ont donné des images d'une humanité assez singulière, notamment chez Bernanos, je reconnais. Quand Bernanos arrive à dire à propos d'un prêtre, miracle de ses mains qui peuvent donner ce qu'elles ne possèdent pas. Je cite de mémoire, mais c'est un peu l'idée. Tout d'un coup, je regarde le prêtre autrement et je me dis pas forcément que pour être efficace, entre guillemets, il faut qu'il soit beau, intelligent et éloquent, mais qu'il peut être petit, borgne et bègue. Et que pourtant, ce qu'il fera à la messe aura la même valeur que son homologue beaucoup plus doué, et ça en a certainement fait un personnage assez essentiel dans mon champ intellectuel, dans mon champ littéraire, et aussi dans ma vie personnelle.
C'était Personnage en personne, le 123e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Steve Burns, créé par Al Pacino dans le film La Chasse de William Friedkin.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production de Meryl Moneghetti. Prise de son Cédric Châtelus. Dans un instant, Mathias Sénard et la salle des machines.